9h dans le bureau de Par Jupiter.
Bon les garçons, j'aimerais qu'on se concentre aujourd'hui.
Comme tous les jours.
Charline.
Ouais.
Particulièrement aujourd'hui parce qu'on reçoit quelqu'un de la playlist de France Inter.
Ouh là, moi je vais aller faire un petit tour.
Non, parce... tu restes là. Vous êtes beaucoup trop moqué de cette playlist.
Non,
ah bah, si
peu. Non, jamais. Voilà. Parce que moi, j'aime beaucoup moi la chanson française.
Charline. Ah, un bon point.
Allez. Non, mais on se moque pas vraiment de la playlist. Qui aime bien, châtie bien.
Oui, voilà, moi par exemple, je fais énormément de vannes misogynes, mais j'adore les filles.
Trop peut-être.
Bah, ouais, et moi, regarde, je me moque beaucoup de la droite. Mais en fait, ouais, non, c'est pas un bon exemple. Mais bon, on reçoit qui?
Eh ben aujourd'hui, on reçoit le prince de la playlist.
On a déjà reçu Gérard Lenormand.
Hein? Non, mais c'est. Oh non, Benjamin Biolay par-ci, Benjamin Biolay par-là, on l'a déjà reçu.
Mais c'est pas Biolay, mais c'est, c'est la crème de la crème. Un certain Eddy.
Monsieur Eddy, j'adore.
Ah, bah quand même.
Ah, bah moi aussi, j'adore.
J'ai vu tous les concerts.
Non, mais Guillaume, tu pourrais nous citer une chanson d'Eddy de Pretto, toi?
Ah, bah parfaitement.
Ah, bien joué, c'est le titre de la deuxième chanson de l'album. Dites, t'en connais une autre?
Grave.
Ouais, ah ben ouais, dis donc, t'es fort, hein.
Bah normal.
Putain, mais normal aussi, ça c'est l'album cure comme grave. Bon, bah je vais vous laisser préparer l'interview alors.
Mais non, attends.
Comment tu sais tout ça, toi?
Mais j'ai rien pigé à ce qui s'est passé, moi. Je sais pas, je suis bien emmerdé. Je sais pas comment je vais faire pour l'interviewer. Tu connais, toi?
Moi, je connais. Je connais hyper bien, Eddy. Ah bon? Il a pas de secret pour moi. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis.
France Inter et bienvenue au Wokistan, dont voici la devise « Mieux vaut être seul qu'accompagné de Jean Castex », signé le gouvernement belge en quarantaine.
C'est pas faux.
Voici le sommaire. Le jeune est engagé et sur plusieurs fronts, l'égalité homme-femme, le climat, la chasse, les réfugiés, mais engagé autrement, déplore le gouvernement, entendez par là, pas par le vote. Marlène Schiappa a donc annoncé des mesures pour ramener le jeune dans le bureau de vote. Bla bla bla, bla bla bla. Voilà. Adèle 1, Spotify 0. La chanteuse britannique est la première à se faire entendre de la plateforme de streaming. Elle a réclamé que les chansons des albums puissent être écoutées dans l'ordre, tout simplement. Une avancée modeste, mais elle met fin à une aberration, écouter un album dans le désordre.
J'ai raté le début, vous pouvez me raconter?
Eh ben non. Et si l'on en revient au sens premier du mot viril, non seulement les femmes peuvent se le réapproprier, mais en plus ils pourraient réconcilier les hommes et les femmes. L'ouvrage d'une sémiologue plaide cela sous le titre « Viril comme Vénus ».
Brut ou rosé? Les messieurs affectionnent particulièrement la cuvée rosée.
Brut.
Oui, merci Alex. Ah bah c'était vous déjà.
Oh là là.
Mes côtés, Alex Mizorek.
Je vous remercie de reconnaître ma virilité à tout moment. Alors, je vous présente le reste de l'équipe à 17h20. Celles dont les chroniques musicales ont parfois un point commun avec les chansons de Francis Lalanne. Elles sont parfois trop longues. C'est Aline Fanoukoé, bonjour.
Bonjour.
Et de quoi allez-vous nous parler, même si j'ai une petite idée?
Oh bah un artiste qui s'appelle Eddy de Pretto.
C'est pas bien, je vois très bien qui c'est.
Accessoirement.
Le coup de bol. 17h30, celui dont les chroniques sociétales se diffusent différencie des engagements de Yannick Jadot, car elles sont trop souvent à gauche, elle, Guillaume Meurice.
Bonjour à tout le monde, moi je suis allé au Marketing Days aujourd'hui.
Oh, c'est pour vous ça.
Et je vais vous parler donc de marketing, des présidentielles, notamment des élections passées.
Beaucoup de gens ont fait un peu en mode test and learn. Hein.
On a fait du test and learn la dernière fois. Ouais, oui, c'est ça.
J'ai l'impression que ça pourrait être mon lancement pour le dernier, mais bon, si j'avais pas prévu, à 17h40, le test and learn.
Économise.
De la chronique, comme ça je garde celui-ci pour la prochaine fois, c'est Hippolyte Girard.
Oui, ça va.
Oui, de quoi allez-vous nous parler? De quoi allez-vous tester?
De naming.
De naming.
Ah bah voilà.
Voilà, c'est bien. Heureusement, on est en radio, il y a des sous-titres. Allez, voici celui qui vient nous ambiancer jusqu'à 18h. Je vous laisse annoncer à nos auditeurs et auditrices qui vous êtes. Vous êtes...
Eddy de Pretto.
Mais ouais.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Mais oui, je l'ai reconnu. Bonjour Eddy de Pretto.
Bonjour, ça va?
Mais bien. Oui, très bien. Merci d'être avec nous. Vous êtes en tournée avec votre deuxième album, À tous les bâtards. Vous aviez déjà fait une grande tournée avec le premier album. Vous avez acquis une certaine maîtrise de la scène. Et quand vous avez écrit ce deuxième album, est-ce que vous avez tenu compte un petit peu de la tournée? Vous vous êtes davantage projeté dans l'écriture texte et musique?
Il y a des morceaux où je me suis dit, ouais, ça, ça va grave ambiancer, surtout dans les festivals. Il y a un truc dans les festivals, c'est que, à chaque fois sur le premier album, je me disais, il manque des chansons, up, parce que je suis pas celui qui fait de la disco ou de la samba tout de suite.
Et... Vous aviez quelques chansons down. Oui.
J'ai beaucoup de chansons, justement, sur le texte, sur le deep, quoi, plutôt un peu plus sombre. Et donc, du coup, en festival, je me suis dit qu'absolument, il fallait, rehausser ça pour attraper le monsieur là-bas qui boit sa bière et qui s'en fout.
Ah, donc ça a un petit peu influencé votre écriture de cet album. Alors dans cette tournée que vous avez entamée au Bataclan, vous jouez à la fois dans les zéniths, les grands zéniths de France, et aussi, je l'ai dit, au Bataclan, des scènes un peu plus petites, mais quand même pas mal, hein. C'est le moyen,
six
on va dire.
Bataclan, en fait.
Ouais, quand même, six Bataclans, c'est énorme. Mais c'est deux salles de tailles différentes. Est-ce qu'on fait vraiment le même concert dans un zénith et dans une autre salle?
C'est en termes d'énergie, j'ai l'impression que j'ai plus d'espace pour me dédoubler, pour devenir encore plus gros en zénith qu'au Bataclan, parce que il y a beaucoup plus de proximité de fait avec les gens au Bataclan, et du coup, je me grandis, mais peut-être un peu moins que dans un zénith. C'est comme un peu l'image du poisson rouge, c'est tu le mets dans un petit bocal, il reste de la taille du petit bocal. Si tu le mets dans un grand bocal, il devient énorme, le poisson rouge. Et ben, en fait, je suis ce poisson rouge-là.
Et donc, les chansons que vous avez écrites en disant, tiens, pour les festivals, ça va bien ambiancer. Au Zénith, ça va, vous allez pouvoir tester cette ampleur-là un petit peu.
Feu. Ah oui.
Garantie,
je vous le promets.
D'accord.
Vous semblez aussi, même en interview vis-à-vis des médias, beaucoup plus détendu que quand on vous a connu. Quand vous êtes arrivé, vous étiez un peu timide.
Je connaissais pas.
Mais c'est pas un reproche.
Ah, d'accord.
C'est même plutôt.
Là, ça y est maintenant.
Mais oui, c'est plutôt un compliment. Et on savait, quelque part, au premier album, on s'est dit si on le reçoit, comment il va être. Et ici, on était hyper contents. On savait que vous alliez être joyeux. Est-ce que ça, justement, sur scène, vous en profitez mieux maintenant? De cette coolitude, je sais pas comment le dire. Mais...
Ouais, de la détente. Mmh. Bah, en fait, plus tu. C'est comme tout, hein. Je pense que plus tu acquéris de l'expérience, plus t'es détente et plus tu comprends que ce petit sourire à ce moment-là, que nanani, que le fait que plus tu vas mieux le vivre, plus tu vas passer un putain de bon moment avec les gens et plus ça va s'entendre et plus ça va se ressentir.
Ça a été une réflexion ou c'est vraiment un truc presque épidermique?
Ah non, c'est une construction de tous les jours. C'est un travail, monsieur. Tous les jours, tous les matins, je me dis sourire, sourire. Je me dis, ça va bien se passer aujourd'hui, ça va être une belle journée.
Et puis il y a ce duo aussi avec Julien Doré, L'Arme Fatale. Julien Doré dont vous étiez en première partie il y a à peu près 4 ans si je me rappelle bien.
En 2017, lui qui m'avait invité, le seul d'ailleurs, à m'avoir invité sur la première partie du Bercy. Son Bercy.
Et donc ce duo avec Julien Doré, c'est un fruit mûr.
Bah là, il m'a invité pour la réédition de son nouvel album, et j'ai bien sûr répondu avec grand plaisir que j'adorerais faire ça avec lui, bien sûr.
Alors on vous a pas mal demandé à propos de ce duo, ce que vous aviez en commun avec Julien Doré. Donc nous, il nous reste à vous demander ce que vous auriez. C'est pas une question facile, hein. Attention.
Oula, attention.
Je vous préviens. Qu'est-ce que vous auriez de très différent, mais de complémentaire?
Oh, c'est pas mal.
Ouh là là.
Ça a été bossé,
ouais,
ça.
Ouais, ça c'est une question.
Testé en soufflerie, la question.
C'est un travail de tous les jours. C'est lui qui l'a dit.
Bah, je pense les cheveux.
C'est un peu botté en touche, quoi.
Capillairement, c'est pas mal.
On a un truc. Ouais. En tout cas, c'est très important pour nous, comme vous le voyez.
C'est vrai. Ça peut peut-être se définir un peu par le clip, peut-être la scène de début du clip où
exactement.
Vous êtes chacun, dans un.
Dans l'attente.
Ouais.
Il va se passer quelque chose.
Ouais, exactement.
Et finalement, il se passe pas grand-chose.
Pour avoir la réponse, moi aussi, mais pour avoir la réponse, peut-être regarder le clip L'Arme Fatale,
exactement.
Julien Doré, Eddie de Préto. Et puis Julien Doré, il vous a encouragé. Aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait des jeunes chanteurs ou chanteuses à qui vous auriez envie de tendre la main à votre tour? Peut-être vous le faites-vous déjà.
Bien sûr, bah là par exemple j'ai invité pour les premières parties des 6 Bataclans, j'ai invité 3 artistes. Il y avait Timothée Joly qui fait que j'ai découvert d'ailleurs sur votre antenne de Walkist, bien sûr.
On félicite les programmateurs.
J'ai invité aussi Isult que j'adore et avec qui on a travaillé ensemble et une petite aussi qui s'appelle Roxane. J'aime, et après il y a Benjamin Epps, il y a plein d'artistes que j'adore et que j'écoute bien sûr.
Et que vous croisez comment vous choisissez leur tendre la main ou à quelles occasions?
Sur les réseaux.
Ouais.
Sur les réseaux.
Ah oui, c'est
ouais.
Par les réseaux.
Ouais, bah je regarde beaucoup de choses, je suis un peu les tendances, les vagues. Et puis du coup, j'envoie des messages tout bêtement et puis je lui dis Timothée Jolie, je l'avais découvert sur France Inter, Isel, bah on se connaît depuis longtemps parce qu'on avait fait de la musique ensemble et que j'aimais beaucoup son travail. Donc c'est des gens ouais que avec qui j'ai une sympathie, une énergie, un truc à partager. Donc je leur envoie un message et je leur dis est-ce que ça te plairait de venir en première partie?
Vos chansons étant très personnelles, c'est facile de partager et de s'ouvrir aux autres à la collaboration?
Non, ça a été très compliqué.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, ouais.
Bah, c'est aussi un travail de tous les jours.
J'écris tellement sur l'intime, sur le ressenti personnel et tout des choses que c'est vrai que c'est compliqué à ouvrir et il y a pas de l'ouverture avec quiconque.
Et sur la scène internationale, il y a des artistes qui
comptent pour moi.
Compte pour vous et que vous aimeriez rencontrer, bah évidemment.
Bien sûr, il y a j'aime beaucoup Frank Ocean, il y avait Kevin Abstract qui est un peu dans le même style, Tyler the Creator aussi, mecs qui travaillent énormément dans le son.
Et ça dit beaucoup de choses à Alex. Ouais. Hein,
moi, je regarde Aline. Si Aline connaît, c'est que c'est bon. Sinon, c'est ma référence.
D'énormes pointures américaines.
Qui font énormément de leur album des expériences auditives, au-delà de juste passer un moment d'écoute simplement pour le kiff. Il y a vraiment de la recherche sonore, quoi. Et c'est très, très intéressant. Voilà.
Avec les Gypsy Kings, rien.
C'est pas prévu. Eddie De Pretto qui est en tournée pour la sortie de son deuxième album À tous les bâtards, qui est sorti au mois de mars. Alors il y a par exemple le 20 janvier vous serez à Clermont-Ferrand au Zénith d'Auvergne, date à Marseille aussi le 21 janvier au Dôme, vous serez à Genève le 22 janvier au Geneva Arena. Il y a pas mal de dates que je vais donner au fil de cette émission. Je vais égrener ces dates bien sûr de tournée. Je vais égrener. Et là, tiens, on écoute un de vos tubes pour se mettre en jambe. On écoutera ensuite avec Aline un autre.
Tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. J'ai côtoyé de rares nymphes, pris des rails en avance dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance. Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et zélé des amants, des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade a fait fuir lentement par sa froide emmoussade. Alors j'ai rempli ma panse avec de vives urgences, autant vives que ivres sur la piste de danse. J'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents sur la piste d'argent. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite et faite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Tu sais, ce soir j'ai lu dans mon corps relâché le manuel torturé de cette danse exaltée. J'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses, dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses. Puis là, je suis rentré bel et bien les mains nues, avec cet air déjà vu et l'envie de surplus. J'ai rien trouvé de précis, excepté d'apparence, exactement même si demain tout recommence. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos.
Danse.
C'est la fête de trop. Regarde, lui de paillettes et me réduit au chaos.
Eddie De Pretto est avec nous dans ce studio dans Par Jupiter. On a écouté Fête de trop. Donc Eddie De Pretto est en tournée dans toute la France et notamment dans les Zéniths. pour l'entourer, Alex ?
Eh bien, Aline Fenouco et qui nous parlera de sa musique. J'espère que vous allez apprécier. Vous avez... si elle ne fait ça pas bien, dites-le, parce que d'habitude, les artistes ne sont pas là, donc elle nous vend des trucs. J'y crois pas une seconde. Guillaume Meurice est là et Hippolyte Girardot qui est tendu. Donc, je ne sais pas ce qui va en sortir.
Se passer les choses.
On va passer par l'information d'abord, Aline. C'est parti.
Ne croyez pas les sondages. Les sondages, ça va et vient. C'est comme la queue du chien.
Le journal de presque 17h17.
Il a l'air mort, ce chien. Quand je pense que je vais avoir le même, ça va.
Et on commence par les titres.
Oui, le Premier ministre Jean Castex est positif.
Eh bien, au moins, ouais. On retiendra quelque chose de positif de son passage à Matignon.
Non, Alex, il y a un petit mot gentil
quand
même.
C'est pas gentil, évidemment. Ouais. On lui souhaite que tout se passe bien. Bah, surtout qu'il est bien placé pour savoir dans quel état se trouve l'hôpital à cause de la politique du gouvernement.
Après avoir été pour la 4e fois cas contact, donc Jean Castex a été testé positif au Covid-19. Donc.
La 4e fois, ouais. C'est la bonne. De quoi faire regretter à François Bayrou de ne pas s'être présenté à la présidentielle.
Et des brèves.
Et oui, Charline, j'ai été testé positif au bref. Je suis
très désolé. Vous m'avez mis deux fois le même titre, j'ai l'impression.
Non, c'est pas vrai, on rajoute si vous voulez.
Je viens de m'en rendre compte.
Fois qu'à contact, oui.
Allez, on commence par cette belle journée sur France Inter.
Et oui, je sais pas si vous avez écouté aujourd'hui dit de Préto France Inter, mais parfois, les joies de la programmation font qu'on arrive à tester le masochisme de nos auditeurs. Désolé pour cette matinée.
Il est 7h46, Léa Salamé, votre invitée ce matin est ministre de l'Intérieur.
Oui, bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
Marine Le Pen, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur Inter.
Notre invité est le président de la Fédération Nationale de la Chasse, Philippe Schrein. Bonjour.
Une belle journée sur France Inter. Allez, changeons-nous les idées, parlons d'Éric Zemmour.
Oui, dans le baromètre Odoxa sorti aujourd'hui, on constate que face à Marine Le Pen, Éric Zemmour ne fait pas le poids.
On a dit pas le physique.
Non, ce baromètre le juge juste plus raciste, plus dangereux et moins compétent que Marine Le Pen.
Eh ben, ça fait plaisir ce petit sondage, parce que se faire battre par une femme, je crois que c'est un petit peu son cauchemar, Éric Zemmour.
Dans une autre enquête, cette fois-ci réalisée par Opinionway, on découvre que pour la présidentielle, Emmanuel Macron est le grand favori des chefs d'entreprise.
Quoi ? Comment ? Mais quelle surprise, Charline ! On pensait tous que c'était Philippe Poutou.
C'est moi aussi, je suis sous le choc.
Bah, écoutez, ça...
Alors, suite aux incidents lors du match Lyon-Marseille, un beau veau du foot a été organisé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Mais bien évidemment, mais qu'est-ce qu'il connaît au foot, Gérald Darmanin ? Je veux dire, à part le marquage à la culotte de celle qui lui demande un logement, je pense que c'est pas son délire.
Sans transition, sachez que le prochain chef d'Interpol pourrait être un général émirati accusé de torture.
Ouh, un petit strike. C'est comme si le Vatican nommait Jean-Luc Lahaye à la tête de la commission réparation pour les victimes de pédocriminalité.
Une page People sur Twitter, la comédienne Leslie Coutran, qui a joué dans plusieurs saisons de Julie Lescaut, a accusé Véronique Genest de faits graves sur le tournage de la série.
Oui, elle a parlé de commentaires raciaux, radicaux, tous les jours elle fait. Enfin, bon, ça date de 2013, quoi, c'est ça que je veux dire.
Et alors,
il y a longtemps, c'était une erreur de Genest.
Tout ça pour ça.
Vous
on se demandait où il allait.
Allez, on passe à l'économie. Au Canada, Uber se lance dans le marché du cannabis.
Oui, on salue donc la création d'Uber Sheets.
En Bosnie-Herzégovine, une ancienne mosquée refait surface dans un lac.
Oui, coup dur pour l'extrême droite qui va devoir admettre non seulement que le réchauffement climatique existe, mais qu'il contribue au grand remplacement. C'est beaucoup d'un coup.
Et puis des brèves.
Nantes, 2 points. La soirée Beaujolais Nouveau tourne au vinaigre, des permis de conduire retirés. Donc la soirée Beaujolais Nouveau tourne au Beaujolais Nouveau.
Et la dernière
dans le Nord, de faux policiers dépouillent des victimes de faux policiers.
Ah, expliquez-nous ça alors.
Non, c'est particulièrement audacieux. C'est-à-dire qu'après avoir été volé par des faux policiers, la victime reçoit la visite d'une nouvelle équipe de faux policiers chargés de l'enquête et bim, il les revole. Et ben on attend du coup que la fausse police des polices fasse son travail.
Merci Alex.
Voilà, faites attention, c'est du service public.
Mais bien sûr. Nous sommes en compagnie d'Eddy de Préto et on va aborder ce premier thème avec vous, car le jeune s'engage mais autrement et il ne vote pas. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à la citoyenneté. Elle veut donc pousser les jeunes à se déplacer vers les urnes avec une campagne d'incitation au vote au mois de janvier via bien sûr les réseaux sociaux ou en allongeant le délai d'inscription sur les listes électorales. Et les contours de cette campagne sont encore flous, mais Marlène Schiappa étant à la manœuvre, on n'est pas à l'abri qu'un vote effectué égale un lissage brésilien offert.
C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Si, ils l'ont fait. C'était pas mal parti. Mais ils se sont arrêtés là. Et c'est ça qui est dommage. Hein mm-hmm. Tu vois, c'était de la poudre aux yeux. Ils ont jeté de la poudre aux yeux. Les gens ont dit oui, mais non. J'ai été observateur, j'ai remarqué qu'on s'est arrêté à un moment et c'est ça qui est dommage.
Benoît Poulvord, dans C'est arrivé près de chez vous, bien sûr. Et alors, en vrai, Marlène Schiappa propose aussi une éducation civique à l'importance du vote. Voilà pour l'ancrage actualité. Alors, il y a pas mal d'aspects de votre art, Eddy de Préto, qui vous relient à la politique, sans doute aussi malgré vous. Quand c'est de votre plein gré, l'engagement, vous qui êtes jeune, qui avez 28 ans, est-ce que cet engagement passe par le vote, parfois ?
Oui, j'ai toujours été voté, ouais.
Ah oui ?
Ouais. Mmh. Ouais, enfin, pour les présidentielles.
Ah. Ouais. Les départementales.
Non, je devrais pas dire ça, mais là où, en tout cas, on nous annonce qu'il est plus important de voter, c'est dans les présidentielles. Donc, je l'ai toujours fait, ouais, carrément. Mais moi, je trouve que c'est le système de vote qui est un peu désuet, c'est qu'on devrait voter sur Instagram aujourd'hui, pouvoir en un clic,
c'est vrai.
Pouvoir voter ou sur les réseaux ou un truc beaucoup plus rapide et vif, quoi.
Le vote électronique déjà.
Voilà.
Première
ça serait mon premier.
Bonne idée. Vous voulez pas faire conseiller de Marlène Schiappa
parce qu'elle est président. Président.
C'est vrai. Alors, il y a les paroles, par exemple, de votre chanson Kid sur le virilisme qui ont été lues à la tribune de l'Assemblée nationale par la députée LREM de l'Allier, Laurence Van Senebroek, à l'occasion de sa proposition de loi pour faire des thérapies de conversion un délit. Et donc, je rappelle, vouloir changer de force l'orientation sexuelle, ce qui est assimilé à de la torture. Oui, alors ça, quand vous entendez que, voilà, qu'à la tribune de l'Assemblée, il y a les paroles de votre chanson.
C'est énorme, ouais. c'est étonnant, c'est surprenant. Je me rappelle très bien dans les conditions où j'ai écrit cette chanson. J'étais dans ma chambre seule, dans un petit appart à Paris. Et jamais j'aurais pensé que certes elle aurait connu ce succès-là et ensuite après qu'elle soit utilisée à des fins politiques et surtout pour défendre des droits que je défends également et que je trouve méga important de mettre sur la place publique. Donc
quand vous écrivez,
ravi.
À un moment, le texte s'abandonne parce que une fois que vous
avez
il est
plus fort que nous, surtout.
Voilà.
C'est que là, il me dépasse, il prend beaucoup plus de place que moi, mon nom, je pense. Il est mis en statut politique pour défendre des droits. Et tant mieux si c'est la force des messages dans les chansons, dans l'art en général, peut avoir cet entrechoc-là. Je crois que c'est la solution.
Il y a Nicolas Dupont-Aignan qui vous cite aussi régulièrement.
Non, mais en tout cas, il a entendu du Eddy de Préto peut-être, s'il était présent à la séance. Et puis, vous avez aussi lancé votre tournée au Bataclan et vous dites que c'est un choix politique aujourd'hui d'acheter une place pour le Bataclan.
Ah bah, je pense, ouais. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit quand j'ai annoncé les Bataclans, comme quoi pour eux, c'était pas possible. Et on a fait 6 soirs complets quand même, donc je pense qu'il y a eu vraiment des débats internes et familiaux et dans des cercles précis. Est-ce que je dois aller vraiment dans cette salle? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on n'y va plus? Est-ce que et je pense que ouais, c'est un choix fort personnellement que d'accepter aujourd'hui d'aller voir des artistes dans un lieu où il s'est passé le pire, mais justement pour recréer des souvenirs. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là d'aller là-bas. C'est pour recréer des nouveaux souvenirs et pour continuer à mettre des paillettes dans ce lieu.
Oui, bien sûr. Débat que vous avez eu, vous aussi. Les gens se sont posés la question, mais vous vous étiez posé la
bien
question.
Sûr, alors, bien énormément. Sûr, énormément.
Et puis aussi, Eddy de Préto et la politique, il y a un titre dans votre album, Créteil Soleil. Vous êtes rapproché de la mairie de Créteil pour mener des actions culturelles avec les jeunes. Là aussi, c'est une manière aussi de ne pas vous embourgeoiser, c'est ça? Donc il y a à la fois le côté pour vous et le côté pour les autres.
Ben, c'est important.
C'est un engagement
toujours.
Aussi.
J'ai grandi dans un milieu très associatif où il y avait à Créteil où il y avait des foyers de jeunes qui nous aidaient à faire des activités, à faire des choses, à pouvoir sortir de nos carcans de banlieue, de cité. Et donc on nous aidait à aller voir des choses. Je me rappelle une fois, je me suis dit, on nous a amené au musée Branly une fois. Mm-hmm. Du quai Branly, c'est
ça? Oui, ouais.
Et aujourd'hui, je me dis, quelle idée folle. Mais en tout cas, je m'en rappelle et ça nous a sorti un peu de tout ce qu'on voyait quotidiennement. Et pareil pour le parc Astérix et tout un tas d'autres choses.
En tout cas,
on faisait
sables.
Des activités. La mer des sables, exactement. Ouais. J'avais oublié l'existence de la mer des
mais
sables.
Mais on était ensemble, dans le car.
Comme quoi, il y a de l'engagement. Voilà, l'engagement.
Mais comme quoi, c'est important de créer ça. Et aujourd'hui, si je peux me permettre de faire des ponts et continuer ce qu'on m'a amené quand j'étais plus jeune, bah go.
Eh bien, go, Edith de Préto, on va parler de votre musique avec Aline Afanoukoï.
Edith de Préto, vous êtes un anticonformiste assumé. Et vous avez toujours cru en vous depuis votre ville natale de Créteil, à laquelle vous rendez hommage dans vos deux albums. Dans Cure, notamment, vous la présentez comme un endroit multiple, animé et sombre à la fois. Dans cette chanson, Beaulieu.
Au Beaulieu, il vaut mieux que je te quitte. Je file mes poches sans fric. Au Beaulieu, bel et bien ma favorite. Je garde toutes tes briques.
Habile jeu de mots où beau remplace ban, c'est-à-dire en marge de la société, ce que vous n'êtes pas du tout. Vous êtes complètement normal.
Insulte-moi et descends-moi de contre-nature ou la belle injure. Ça te froisse, ça te coince, ça te stresse. Allez, bouge et serre les fesses. Puis ne reviens plus voir avec tes gros sabots pour semer le fiasco en venant ici, en jetant des mots sans parcimonie. Des grands mots qui font froid dans le dos, car je suis complètement normal. Complètement
normal,
banal,
comme le président, un certain président. Normal. Non, mais pas banal, ça non, Edith de Préto. C'est cette vie de banlieusard et cette posture de caïd par moments qui vous ont rendu plus fort et donné l'envie de pulvériser tous les clichés et de surmonter les obstacles. Vous aviez de grands rêves et il y avait une petite voix qui vous disait que vous y arriveriez. Vous avez bien fait de l'écouter. Après des études à l'Institut supérieur des arts de la scène, des rôles au théâtre et au cinéma, vous commencez votre carrière comme chanteur au fil de l'eau en interprétant les chansons des autres sur les péniches parisiennes.
Quand j'avais personne qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut et c'était beau. Début, 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 beau. Début, début, début.
Pas de doute, vous en avez dans le ventre et sous le pied. Avec votre titre Kid, vous balayez encore les clichés d'un revers de main, que dis-je, d'un coup de poing, affirmant que la virilité et la force ne se mesurent pas à la longueur d'un sexe triomphant.
Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique.
Bonne nouvelle pour Alex.
Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique.
Tu seras un homme, mon frics.
À tous les bizarros, les étrangers, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les païens, les exclus, oh, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Freaks.
Edith de Préto, vos mots posés là avec grâce et délicatesse, tantôt chantés, tantôt rappés, permettent à votre auditoire de se retrouver, de se reconnaître et de se réfugier aussi. Votre duo avec la talentueuse chanteuse Iseult, qui a comme vous cette capacité de faire voler en éclats les préjugés, nous offre une véritable pause salvatrice et un kiss que l'on reçoit bien volontiers.
Je ne veux pas y faire face. Je préfère me fuir jusqu'à ce que je m'efface. Je préfère ne rien dire, ne rien dire. Je préfère oublier. Je préfère me mentir, être une chose qu'une chose.
On nous dit tenir toujours, sourire pour qui, pourquoi jamais faiblir. Dis-tu fais quoi pour pas périr? On nous dit même comment rire, comment faire genre pour se tenir. Toi tu fais quoi toujours pour obéir? Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut je viendrai les panser. Pose sur mon épaule tes larmes s'il te plaît. S'il le faut je viendrai les sécher.
Un fond de tristesse qui va me dailler. Pourquoi mes failles sont aussi claires là, dans la grisaille? Une dernière larme, je me relève toujours fier. Quand j'ai la rage, mais plus de sourire en l'air. J'ai plus de harne là, et je désarme là, jusqu'à me faire mal. Et je je m'entends plus penser que des trucs sales plein la tête. Je ne dors plus, je ne bois plus, et voilà que mon cœur part en sucette. J'ai tout fait pour rien lâcher, mais tu sais, toi tu connais comment, ouais, je suis épuisé. Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies, s'il le faut je viendrai les panser. Pose sur mon épaule tes larmes s'il te plaît, s'il le faut je viendrai les sécher. On nous dit tenir toujours sourire, pour qui, pourquoi jamais faiblir. Dis tu fais quoi pour pas périr. On nous dit même comment rire, comment faire genre pour se tenir. Toi tu fais quoi toujours pour obéir. Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies, s'il le faut je viendrai les penser. Pose sur mon épaule tes larmes s'il te plaît, s'il le faut je viendrai les sécher.
Douceur et émotion dans ce monde de brut, c'était ce sublime duo Eddie De Preto et Iseult avec Pause et Kiss, déjà disponible et même en playlist sur France Inter.
Ouais. Merci Alina Fanoukoé. Et si jamais vous avez loupé les 6 Bataclan d'Eddie De Preto, il sera au Zénith à Paris le 9 février. Et puis vous êtes en tournée, vous passez par Nancy, Nantes, Rouen, Clermont, Dijon. Il y a une date à Lyon le 27 janvier et le 3 février à Lille. Vous souhaitiez peut-être réagir à la chronique d'Alina Fanoukoé?
J'adore moi quand on parle de moi comme ça.
Excellente réaction. Guillaume Meurice.
Oui.
De quoi parle-t-on aujourd'hui?
Je vais vous parler de marketing aujourd'hui. Bah déjà parce que ça fait longtemps, je vous ai pas parlé de marketing, et puis c'est la campagne qui commence, donc tous les candidats commencent à se marketer eux-mêmes, hein, ils sont devenus des produits, ils le savent. On a le produit du terroir avec Jean Lassalle, on a le produit d'antan avec Michel Barnier, on a la contrefaçon de Le Pen et Zemmour avec Eric Ciotti, c'est un petit peu voyez, comme le Goutella et le Nutella, un petit peu comme quand on dit que Hippolyte Girardot est le Brad Pitt français.
Voilà, très bien.
Mais à part que personne ne dit ça, mais c'est un détail. Le tout, c'est de savoir se vendre. Voilà, faut choisir un créneau en politique. Pour prendre un exemple, Xavier Bertrand, il essaye de nous faire croire qu'il faut ouvrir des lits d'hôpitaux, alors qu'il en a fermé des milliers quand il était ministre de la Santé. Donc, clairement, il mise sur l'audace. C'est son créneau. C'est comme si un vendeur de napalm faisait la promotion d'une crème de jour. Vous voyez, un petit peu. Mais ça se tente. Je dirais, tout se tente. Et pour faire un point là-dessus, je suis allé au Marketing Days, qui commençait aujourd'hui. Alors, c'est les meilleurs spécialistes français du marketing. Et notamment, je vais vous dire tout de suite pour moi, le meilleur, Jean-Jacques Manceau, c'est le rédacteur chef de Marketing Magazine.
Ah, bah oui.
Ah, donc là, c'est. Vous voyez, si le marketing était un jeu vidéo, c'est le boss de fin du jeu. Voilà, Jean-Jacques, on l'écoute.
Ça a mauvaise presse, le marketing, mais je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'en fait, franchement, on se met toujours à la place du client, on essaie toujours de savoir ce qui va faire plaisir au client. Pendant la crise, bah forcément, quand les magasins ferment, il faut les amener sur le web, donc on fait du drive-to-web. Et une fois que les magasins réouvrent, bah, retour à la case départ, on fait du drive-to-shop, on fait du drive-to-store. Donc en fait, toutes ces nouvelles tendances, voilà, c'est ce qui nous anime.
Ah bah, ça m'anime à mort aussi, hein, parce que voilà, bah, je suis comme Jean-Jacques, le drive-to-shop, j'aime ça. Je ne vais plus au Franprix faire mes courses de la même manière depuis que je sais que je fais du drive-to-shop. Hein. Moi, je suis heureux d'être coincé derrière la petite mamie avec son cabas qui ne sait même pas qu'elle fait du drive-to-shop. C'est la Madame Jourdain du drive-to-shop, quelque part. Et ça, vraiment, j'adore, et c'est pas tout.
L'expérience de shopping aujourd'hui, c'est un achat plus un partage. On fait du unboxing. Donc en fait, on achète et on unbox. Donc en fait, on sort de l'emballage. Donc l'unboxing fait partie de l'expérience client.
Ouais, carrément,
c'est
bien
même
sûr.
Pas le dire.
Voilà, ben, je vous ai prévenu, hein, vous n'étiez pas prêts, vous n'êtes pas sur vos appuis. Là, faut être solide, c'est Jean-Jacques, c'est le patron, c'est le head officer manager du bazar. Alors, passons quand même au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les élections.
Je pense qu'il faut réinventer l'expérience client en matière de vote. Parce qu'aujourd'hui, on convoque les gens, ils viennent voter, on leur propose rien. On leur propose rien. Alors qu'on pourrait imaginer des expos dans les salles de vote, on pourrait imaginer plein de choses. Donc, il faut, en mode un peu test and learn, on le disait tout à l'heure, un peu réinventer cette expérience, réenchanter l'engagement politique, faire du drive to vote. Hein,
C'est la clé. C'est la clé, c'est le drive to vote en réenchantant l'expérience isoloire. J'ai envie de dire, on mettrait une expo, on mettrait un concert d'idées préto pour les jeunes, un stand-up de Vizorek pour les vieux. Il y a des choses à réinventer. Alors prenons un exemple concret, la candidature d'Anne Hidalgo qui peine à décoller. Alors comment on peut faire, Jean-Jacques?
C'est une question piège, parce que c'est un peu ma chouchoute. Alors moi je suis parisien, sur le fond, elle est systématiquement caricaturée, elle est croquée, toutes ses phrases sont isolées de leur contexte. C'est vrai qu'elle fait des phrases sans début ni fin, donc du coup elle se prête à la critique. Elle a un problème d'expérience candidate, voilà.
C'est ça, c'est ça. C'est un problème avec les inputs. Clairement, elle n'impacte pas. Elle fait des vidéos de distributeurs de billets de train, elle critique le Minitel. Enfin, le seul truc qu'elle fait de crédible en politique, c'est qu'elle a dit qu'elle se présenterait pas à la présidentielle et qu'elle se présente quand même. Voilà, là, on est sur un vrai foutage de gueuling. Là, d'accord. Mais ça suffira pas. Faudrait qu'elle fasse quoi?
Faudrait qu'elle nous donne un peu quel est son ADN. C'est quoi les valeurs de la marque?
La marque, est-ce que c'est le Parti Socialiste ou est-ce que c'est Anne Hidalgo?
Mais justement, je pense que le problème, c'est qu'on est déjà le produit est plus fort que la marque. Donc, il ne faut pas que votre produit cannibalise la marque. Si vous vendez, un sac Birkin chez Hermès, les gens achètent un sac Hermès ou achètent un sac Birkin?
Je sais pas. Là, j'avoue que là,
Il nous a piégé.
J'ai pas les mêmes problèmes quand je vais chez Emmaüs chercher mes fringues. Je ne fais pas le distinguo. On n'a pas tous les mêmes problématiques. Mais puisqu'on parle pognon, on va conclure avec ça. Anne, elle galère à financer sa campagne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, quoi, Jean-Jacques?
Donc, en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est pas d'aller convaincre les clients. Aujourd'hui, c'est de convaincre les banques. Et pour convaincre les banques, hein, comme toute bonne marque, il faut valider son produit, montrer son. Il faut qu'elle nous fasse un business plan à 3 mois, quoi. Parce que sinon, les banques ne vont pas lui prêter, on n'aura pas de candidat socialiste. Ça, franchement, on peut imaginer que ça pourrait manquer au débat.
Ah, ça, c'est moins sûr. Jean-Jacques, un candidat socialiste qui manque au débat, non. Non, 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 en tout cas. Ben, merci quand même à lui. Merci à Jean-Jacques, merci pour son expertise. Et quoi qu'il en soit, les élections s'annoncent comme un bon bordeling, hein, finalement. Et on drive tout droit vers une expérience de mal au cul.
Merci. Guillaume Meurice, on va mettre en contact Jean-Jacques avec la candidate. Hein, parce que je pense que ça va vraiment.
Tous les candidats.
Ça va lancer la dynamique. Eddy de Préto est en notre compagnie. On va parler expérience client de la musique à présent. Car la plateforme de musique la plus streamée au monde, Spotify, vient de céder face à la chanteuse Adele. Pas sur la rémunération des artistes, ni sur l'exploitation dont ils font l'objet. Mais Spotify a accepté de respecter l'ordre des chansons dans les albums. Et c'est un premier pas. Avant, la version gratuite de l'appli ne laissait pas le choix. C'était écoute aléatoire, obligatoire. Ce mode a été désactivé. Artistes et plateformes, c'est l'histoire d'un bras de fer qui ressemble à un combat séculaire.
Cet accord est trop sec, monsieur Bloch.
Cet accord est tel qu'il a été écrit, mademoiselle Bergson. C'est comme ça et pas autrement.
Ça me fait pas joli.
Parce que vous attendez de ma musique qu'elle fasse jolie.
Ah non, monsieur Bloch, vous n'allez pas recommencer.
Vous avez dit que ça faisait pas joli, oui ou non? Oui, vous l'avez dit. Eh ben effectivement, ça fait pas joli. Je compose pas des musiques rubans, des musiques dentelles, des musiques fanfreluches.
Je sais, monsieur Bloch, je sais.
La musique est dans tout. Un hymne sort du monde. C'est pas un musicien qui a dit ça, c'est Victor Hugo. Un hymne sort du monde. Alors méditez bien cette phrase, madame, et foutez-moi la paix avec mes accords trop secs.
C'est un extrait de Show Business, avec CH, film de Jean-Yann qui date de 75 avec Robert Hirsch et Catherine Rouvel. Alors, c'est peut-être un détail pour nous, ce changement sur Spotify, mais pour vous, ça veut dire beaucoup cette histoire, Eddy de Préto.
C'est beau cette phrase.
C'est beau. Hein. Bah, je savais que vous étiez l'invité, j'ai fait gaffe. Hein. Je sais que vous avez de l'or dans vos moleskines, alors. Oui, c'est un.
Oui, énormément. Bah, énormément. C'était pas la première parce que Lady Gaga, je crois qu'elle avait déjà fait un tweet. Ah. Vis-à-vis de ça, sur son album Chromatica, il me semble. C'est pas la première à en parler en tout cas, mais je crois que c'est la première fois que Spotify, en tout cas, va vers ça et écoute une chanteuse, et pas la moindre. Donc c'est cool, tant mieux. On a énormément de choses à faire encore pour reprendre le pouvoir vis-à-vis des plateformes, même sur les tarifs, même sur les pourcentages, même sur l'usage, comment c'est réparti, comment c'est reversé aux artistes et à quel pourcentage. Il y a énormément de choses à faire.
Donc Adèle a encore du boulot, parce que Adèle, c'est celle qui permet à Spotify de peser en bourse. Donc elle pourrait continuer le combat, elle a ouvert la brèche, ce serait pas mal.
Malheureusement, s'il faut tous être des Adèle pour pouvoir faire bouger Spotify, on n'a pas fini.
C'est à craindre, sauf si vous vous fédérez.
Exactement, il faut faire un lobby entre artistes. Oui. Je lance une proposition d'un lobby artistique.
Mais donc vous, quand vous composez l'album, vous vraiment vous réfléchissez à cette hiérarchie, à cet ordre, parce que je me dis pour un opéra, c'est pas possible de faire ça. C'est-à-dire que si Carmen meurt avant qu'elle ait séduit Don José, c'est un vrai problème. Spotify n'a pas compris.
Bah bien sûr, Spotify n'a pas compris ça en tout cas. Mais il est vrai que, en tout cas pour mes albums et d'autres, je pense aussi, c'est important l'ordre de du récit. En fait, après, je suis pas en train d'obliger aux auditeurs de choisir. Justement, il faudrait qu'ils aient le choix de pouvoir soit avoir le choix d'écouter en shuffle, aller à soit drive to shuffle, soit drive to dans l'ordre.
Dans l'expérience input, on a compris. Mais oui, cet album, par exemple, À tous les bâtards, il est construit comme un récit. On peut l'écouter comme un récit. Vous l'avez construit comme tel.
Totalement. Ça a été très long pour structurer l'album pour que on puisse l'écouter du point A à un point
ouais, tout ça pour que Spotify foute tout en l'air et rabatte les cartes. Et dans un concert, alors, est-ce que vous conservez cet ordre? Question non. Un petit peu prosaïque, mais...
Non, c'est un autre récit.
C'est un autre récit. C'est
une autre dynamique. Et c'est pour ça que le live est millimétré, enfin en tout cas pour moi, est très millimétré parce que c'est des énergies, des nuances pendant le live, pendant le show, pour tenir les gens, en tout cas pour passer la meilleure des expériences à mon sens. Et donc du coup, non, il est retravaillé parce que en termes d'énergie, dynamique de chanson.
Et en mêlant les anciennes chansons. Oui.
Et est-ce que vous travaillez vos transitions
ou totalement, totalement. Ouais, c'est pour moi un concert, c'est pas juste chanson, applause, bonjour, chanson, bonjour. Et c'est pas que comme ça.
Donc, Dylan, il dit même pas bonjour.
Attends, il y a un petit et Michel à la batterie. Voilà. Et Jean-Mi au corps.
Il y a tout un. Encore une fois, le récit, la nuance,
l'univers.
L'univers. Comment tu tiens le fil avec des gens, le fil rouge. Comment tu les tiens de le moment où ils rentrent dans la salle jusqu'au moment où ils ressortent. Et pour moi, c'est très important de les amener, de les guider. Ils ont juste à se laisser emporter par le truc et go for ça, oui. Quoi.
Vous avez entendu Hippolyte Girardot? C'est
go
vraiment, c'est vraiment ce que vous avez appliqué pour votre chronique et donc on a hâte de l'entendre.
Moi, j'ai commencé un récit il y a 5 ans avec vous, j'ai pas encore fini. Mais pour moi, c'est tout être bien organisé, c'est millimétré, comme il dit Eddie. D'accord? Bon. J'avais dit que je parlerais du naming. Vous savez pas ce que c'est le naming, c'est comme le market là. Le naming, comme son nom l'indique, c'est celui qui nomme. Voilà. Et pourquoi on dit un namer et pas du tout un nommeur? Parce qu'en France, ça marche pas comme ça, les noms. Voilà. Regardez l'histoire du Yel, poussé en tête de gondole par le Robert, mais non reconnu par l'Académie française, qui est la seule habilité à officialiser l'entrée dans le giro français d'un migrant, même quand c'est un mot. Même quand c'est un mot. Donc on dit namer à l'anglo-saxonne, comme le gars Jean-Jacques, là, et qui parle tout le temps avec des termes anglais, tu vois, dame to shop, tout ça, machin, voilà. Et par exemple, c'est un namer qui a renommé la femme de ménage en technicienne de surface, ou la caissière en hôtesse de caisse. Et d'ailleurs, c'est sûrement un namer qui a trouvé la France insoumise ou la République en marche, parce que bon, Parti Socialiste, si tu veux, non, ils ont pas... Pourquoi t'es cherché un Neymar? Tu vois ce que je veux dire? Et ça touche tout, absolument tout. Les jeux de société, les bonbons, les protections périodiques, les céréales, les voitures, les appareils à raclette, le paracétamol aussi qu'on doit avaler ensuite, ou en même temps, selon la qualité du vin. Le naming, c'est partout, c'est tout le temps. On m'a même raconté que certaines émissions de radio font du renaming en mi-course. Mais bon, j'ai pas vérifié l'information. Hein. Oui, le naming, c'est inventer un écran de fumée cannabique pour masquer le réel. C'est pas mal, cannabique, non? C'est ouais, un c'est truc joli. Que j'ai trouvé.
Vous avez aimé.
Oui, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, encore une fois. Tout le monde se dresse contre le cannabis libre, etc. Je me dis, mais cette France veut rester vraiment rétrograde jusqu'au bout. Bref,
c'était notre chronique, ça.
Ça, c'était une autre chronique que j'avais commencé. Bref, oui, on invente un écran de fumée cannabique. Parce que c'est bien le cannabis. Pour masquer le réel, on fait de la cuillère de soupe récalcitrant, de la soupe d'épinards, un avion pour qu'il atterrisse dans l'aéroport bouche d'un enfant, par exemple. C'est comme ça qu'on fait. Le naming, c'est rendre amical, familier, intime, un objet sans grâce, mécanique et impersonnel. Et ça va jusqu'à, évidemment, l'absurde. Vous avez remarqué, j'imagine, ces cubes en acier de 3 mètres par 5 avec plein de petits casiers posés à peu près partout, en ville ou à la campagne. Ce sont des consignes automatiques, les fameux lockers d'Amazon, qui permettent de retirer H24, 7/7, le colis indispensable à notre névrose d'achat immédiat. Eh bien, je ne le savais pas, mais une délicieuse personne, aussi observatrice que pleine d'esprit, m'a fait remarquer que tous ces lockers avaient des noms. Tous! Et c'est là que ça devient cocasse. Parce que j'aimerais savoir ce qui se passe dans la tête du Neymar chez Amazon quand il choisit le nom et aussi la couleur de l'objet, le locker. Par exemple, À la gare de la Loupe, m'a-t-on dit, dans l'Orne, le Neymar se dit « Oh, c'est des bouseux, j'ai leur collé un truc jaune, un prénom qui fait peur, après tout, il n'avait qu'à pas voter Marine à la dernière présidentielle. » Ou bien, en réfléchissant un peu plus, « Non, je vais leur faire encore plus peur, je vais leur mettre un truc pas possible, comme ça ils vont voter Zemmour. » Et je vous jure que le gros loqueur jaune qui se trouve à la gare de la Loupe, il est écrit dessus « Bonjour, je m'appelle Mahamadou ». C'est sérieux, vous pouvez vérifier. Par contre, au Louvre, alors là c'est chic, hein. Ah ça, faut pas faire fuir le client. C'est une couleur sombre, un peu dans les marrons cuir. Ça pourrait être dans un décor de pub de Christian Dior, tu vois. C'est un container dans les couloirs du carrousel. Faut soigner, sinon la mairie Hidalgo va me virer. Alors je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre, se dit Neymar. Ben, je vais mettre une Carla. Oh non, c'est trop, si je mets Carla, ça va monter jusqu'au chef, je vais me faire lourder, on oublie. Elena. Bah Elena, c'est pas mal, ça fait chic, enfin ça fait fric surtout, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Elena. C'est comme ça que c'est écrit dans le container qui se trouve dans le Louvre. C'est quand même dément, non? Il y en a 3000 en France, il y en a 3000, c'est énorme, ils veulent le doubler. Hein. Il y en a 3000 en France, vous pouvez vous amuser à les trouver. Ils ont chacun un nom différent. Alors moi j'ai cherché celui qui est à côté de chez moi, parce que je me suis dit comment il s'appelle quoi ce con. Et je ne sais pas si c'est parce que c'est aussi celui qui est à côté de chez Alex, mais sur ce locker gris, posé, abandonné dans une espèce de station-service pourri, qui a écrit « Bonjour ». Je m'appelle Boutentrain. Je jure que c'est vrai. C'est
mais nous irons vérifier quand même. Merci beaucoup, Hippolyte Girardot. Edith Préto. Écrivons aussi viril avec un E. Virileux. Yel viril, par exemple, voyez. Les femmes peuvent être aussi viriles que les hommes puisque le sens premier du mot, paraît-il, signifie vertu et courage, nous explique une sémiologue qui consacre un ouvrage à ce mot. Et qui s'intitule « Viril comme Vénus ». Donc on en croise tous les jours des gonzesses de la sorte.
Ça doit pas être facile d'être un homme, je le pense sincèrement. Moi j'aurais pas voulu être un homme. Parce que quand même quand on y pense, le premier défi qui se pose à l'homme, dans sa vie d'homme, c'est quand même de devoir bander. Et c'est monstrueux, mais l'origine de la virilité c'est ça, c'est tu dois gouverner ta propre teub. Mais quel défi monstrueux! Tu m'étonnes qu'une fois qu'ils y sont arrivés, ils pensent qu'il faut qu'ils gouvernent le reste du monde. Les mecs, ça doit rendre mégalo, évidemment. Mais l'enfer que ça doit être, mais c'est une prison, cette bite. C'est une prison.
C'est Blanche Gardin, bien sûr. Et un article trouvé sur le site de nos confrères suisses de la RTS, la radio-télévision suisse. Donc l'autrice de ce livre, Mariette Darrigan, préconise aux hommes et aux femmes de se réapproprier la virilité de façon partagée, puisque c'est une qualité au départ. Alors au-delà du fait qu'elle cherche clairement à assassiner tous les académiciens, qu'en pensez-vous, vous qui est devenu un docteur S virilité avec votre chanson.
Ouais, c'est de ouf, à chaque fois je suis invité. La virilité, monsieur de Préto.
Mais là, je vous la pose différemment, attention.
Bah oui, c'est différent, c'est différent.
C'est différent.
Bien sûr. Moi, depuis le début que là où j'ai écrit cette chanson, j'arrête pas de dire que ma mère a été une figure virile pour moi également. Et donc, je l'ai toujours assimilée, associée à des femmes également, la virilité. Et ça n'a jamais été qu'un truc masculin. C'est vraiment une construction sociale, une injonction sociale qu'on peut avoir dans des aspects différents, soit pour l'homme, soit pour la femme.
Donc, on pourrait dire de votre maman qu'elle est virile comme Vénus.
Elle est virile comme Vénus, avec un E viril.
Oui, exactement. Ouais. Exactement. Mais justement,
mais même pour les hommes, d'ailleurs, c'était avec un E.
Un homme viril.
Ben c'est justement ça a été c'est ce que madame sur la RTS explique là.
Ouais, exactement.
Elle explique justement que à l'époque c'était
à la Renaissance c'était avec un E.
Voilà.
Le E a disparu ensuite.
Exactement, il a disparu.
Vous êtes trop fort.
Ouais.
Vous êtes incollable là-dessus maintenant.
Ah, je suis incollable. Docteur de Préto.
Adjectif alors épicène donc. Mais se réapproprier les mots, c'est ce que vous avez fait avec le mot bâtard aussi.
Bien sûr. Bah voilà. Bah, c'est exactement le même sujet. Ouais. C'est comment de quelque chose qui potentiellement peut être jugé négatif ou mal vu, on le réhabilite et on se l'octroie et on se dit que ça va être quelque chose de fort, de puissant et ça va être à moi ce mot.
Voilà comment on peut changer le monde.
Réhabiliting.
Edith de Préto. Vous êtes un grand amateur de théâtre et vous avez fait des études aussi pour. On voudrait jouer avec vous dans un sketch si vous êtes d'accord.
Oh là, j'adore faire ça.
Ah, génial.
Et vous allez kiffer le rôle.
Putain, ça date.
Éric Zemmour.
Non.
Mais oui.
Je te crois pas.
Mais je te jure. Parce que
chaque fois tout le monde en parle de ce mec, c'est fou. Hein. C'est
hier, sur France Info, il a dit qu'avoir un 100 mètres carrés à Paris, c'était être riche. Et ça, son équipe de com, il faut qu'elle leur cadre un petit peu. Charline et Guillaume sont l'équipe de com. Vous êtes Monsieur Zemmour.
Je crois pas.
Composition.
Bon, mon Rick Fou, ça va pas du tout là. Hein.
Oui, comme on dit chez nous, t'as chié dans la com.
Ah, pourquoi vous dites ça?
Bah t'as merdé hier avec ce que t'as dit sur ta maison.
Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit sur CNews?
Non, pas cette maison-là.
Qu'est-ce qui ne va pas alors?
Bah tu peux pas dire à la radio que posséder un 100 mètres carrés à Paris, c'est pas être riche.
Ah bon, première nouvelle.
Mais oui, mais Eric, les pauvres, ils comprennent pas ça.
Bah, ils sont pas bien malins.
Bah oui, c'est même pour ça qu'ils ont envie de voter pour toi. Alors.
Le français moyen, il pense qu'avoir un pied-à-terre de 100 mètres carrés à Paris, c'est rouler sur l'eau. Hein.
Vous voulez dire qu'avec 1 300 000 euros, on est considéré comme riche?
Voilà.
Ouais. Ouais, ça doit pas jouer à beaucoup.
Bon, et donc là, on va te briefer pour que tu te trompes plus.
Ok, ok, ouais, allez-y. Bon.
Alors, Moriri, quel est le niveau du SMIC?
8 000 euros par mois.
Non, mais non, mais non.
Ah bon? Même brut?
Mais non, non plus. Non plus, non.
Mmh, ouais, ça doit pas se jouer à beaucoup.
Hein. Un peu quand même, vrai. C'est 1258 euros.
Ah, ça va alors, mais comment ils font?
Non mais attention, parce que les gens vont penser que vous êtes déconnecté de la France. Là,
allez, hein. Allez, on change de thématique là.
Bon, parlons de l'islam.
Non, parlons de l'automobile voilà. Plutôt, je préfère.
Ah bah ça, je connais bien. Mon chauffeur me disait l'autre jour...
Top.
Quoi, bah, quoi.
Mais il faut pas dire que vous avez un chauffeur, voilà. Enfin.
Quoi? Ce n'est pas être riche que d'avoir un chauffeur?
Ben si, justement, c'est ça.
Ah bah, alors, quand est-ce que les Français font une sieste? S'ils conduisent eux-mêmes les voitures?
Ben ils font pas de sieste.
Bah ça alors, mais comment ils font?
Bon, autre sujet.
Okay, bon, le voile?
Non. Si on vous demande votre plat préféré, vous répondez...
La langoustine. Sur une mousse orange de truffe.
Non, ça va pas.
Il faut donner un plat de pauvre, voilà. Là. Parler du couscous, là, je sais pas, moi.
Ouais. Ah, ça oui, je peux en parler. Il faut qu'ils rentrent chez eux, les couscous.
Non, mais c'est quoi ça encore? Qu'est-ce que c'est?
C'est ma Breitling. J'ai mon cours de golf qui démarre dans 20 minutes. Mon chauffeur m'emmène à Hauteuil. On vous dépose quelque part.
Eh ben, écoutez, impeccable.
Vous mettez dans des choses, là.
Eddy de Préto, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. C'était un plaisir. Je rappelle qu'avec votre deuxième album À tous les bâtards, vous êtes en tournée, mais internationale, hein, parce que vous passez aussi par Bruxelles, tiens, le 4 février. Je sais que vous passez aussi à Genève, je ne sais plus à quelle date, mais en tout cas, il y aura Rennes, Bordeaux, Toulouse, Tonnex en Suisse, Marseille et Lyon, par exemple, au mois de janvier, puis Lille, Bruxelles, Nancy, Paris, le Zénith, le 9 février. Merci beaucoup, Eddy de Préto. Je vais vous dire à demain, les amis.
Ben on vous
pour dit. Un vous aussi okay. Ouais oui, pour okay, un Parjupi okay. Classe alors que 4000 classes sont actuellement fermées, en tout cas la nôtre reste ouverte hein.
T'en sais rien.
Ah bon?
Oh, t'en sais rien. Jusqu'où tiendra le mirage, l'illusion que tout va bien.
Alors on verra.